France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse, journée spéciale sur France Inter, consacrée au nouveau désordre mondial. Et ce matin, dans Grand Main Vous Fasse, comment surmonter psychologiquement l'impact de la crise internationale que nous traversons. Il y a exactement 5 ans, le jour du premier confinement, je présentais une émission spéciale pour affronter les angoisses et les incertitudes face au Covid. Et aujourd'hui, de nouvelles angoisses surgissent. Peur de la guerre, peur de lendemain qui déchante, peur que nos démocraties européennes ne résistent pas au coup de butoir répété de l'impérialisme trumpien et de l'autocratie poutinienne. Alors comment faire face alors que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir l'impression de vivre dans une dystopie, cette représentation pessimiste du futur? Et face à ce pessimisme, nous esquisserons des raisons d'espérer et d'agir en toute lucidité pour ne pas s'engluer dans un climat anxiogène mortifère. Racontez-nous ce que vous ressentez en ce moment au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli Radio France en les messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, le nouveau désordre mondial, une journée pour comprendre, Ali Rebéi.
Vous jouez avec les vies de millions de personnes, de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale.
Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue.
Depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon, en oubliant comment ça s'est terminé.
Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre.
Face à la montée des tensions, l'Union européenne veut agir vite. Hier, à l'unanimité, les États membres ont approuvé un vaste plan de réarmement.
Nous voulons tous une paix par la force, une paix juste et durable.
Des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement.
Le nouveau désordre mondial dans un medley signé Claire Destacan. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre spécialisé dans les thérapies comportementales et cognitives et on attend avec impatience votre prochain roman qui sera publié l'an prochain.
L'an prochain, oui.
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali.
Agrégée de philosophie normalienne, dernier ouvrage paru chez Stock, La splendeur du monde. Bonjour Aurélie Huse.
Bonjour.
Maîtresse de conférences en littérature française à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes notamment spécialiste en science-fiction et en culture médiatique et on reviendra avec vous sur le terme de dystopie qu'on utilise beaucoup en ce moment. Bonjour Guillaumette Audicino.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et chef de rubrique cinéma à Télérama, chroniqueuse le vendredi dans cette émission et vous nous conseillerez tout à l'heure Guillaumette quelques films pour affronter ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et avec nous également, comme un jeudi sur deux, Jean-Laurent Casselli, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes créateur du bureau de tendance Maison Casselli, vous êtes le co-auteur de La France sous nos yeux avec Jérôme Fourquin, best-seller indispensable pour comprendre notre société. Alors à titre personnel, dites-nous autour de la table, quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment face à cette crise internationale, à ce nouveau désordre mondial que nous sommes en train de traverser? Ça tombe sur vous Laurence de Villers.
Ça tombe sur moi. Alors on va commencer peut-être par le plus noir. Hein. Pour la première fois, mais vraiment, j'ai peur. Et je pense qu'il faut analyser la peur, hein, parce qu'on a tellement voulu la mettre hors la loi, que veut dire légitimement avoir peur. C'est pas de l'angoisse, hein, c'est parce que l'angoisse n'agit pas, ne pense pas, mais c'est de la peur. Et de fait, je me suis dit, il y a énormément de philosophes qui ont montré comment le politique lutte contre la peur ou joue avec la peur. Donc c'est intéressant philosophiquement. Et puis je regardais la série Il Gatto Pardo, le guépard, c'est la série sur Netflix, hein, c'est pas, je me tourne vers une spécialiste, c'est pas le film de Visconti. Et il y a cette mélancolie du guépard qui voit un monde finir. Et j'aimerais pas être dans cette mélancolie, mais de fait, je vais quand même relire le roman de Lampedusa, le guépard. C'est la fin d'un monde. C'est quoi la fin d'un monde?
Docteur Aurélia Schneider.
C'est passionnant. Je crois que je vais relire aussi. Non, moi, je me faisais la réflexion qu'on n'avait pas beaucoup appris de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Juste comme ça. J'ai souvent pensé ça. Donc, j'ai l'occasion de le dire ici. Je crois qu'on a été quand même pas mal effrayés, dévastés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches, qui n'ont même pas pu les enterrer. Enfin, vraiment, ça a été vraiment une période dure. Mais n'empêche qu'on aurait pu apprendre de consommer différemment, de faire moins de voyages, de moins acheter de voitures. Enfin, j'en sais rien, mais je trouve que tout ça n'a pas beaucoup bougé depuis ce moment-là. Et ça me chagrine pour faire un euphémisme.
Est-ce que vos patients, docteur Schneider, vous parlent de ce nouveau désordre mondial, de l'anxiété qu'elle provoque, comme ce fut le cas au moment du premier confinement, il y a exactement 5 ans, où vous étiez d'ailleurs à nos côtés dans ce studio oui. pour répondre aux angoisses des auditrices oui. et des auditeurs. Est-ce qu'ils vous en parlent dans le secret de votre cabinet?
Alors, oui, il y a une assez grande partie des gens qui arrivent, qui exposent leurs problèmes, mais qui, quand même, les problèmes sont teintés de ce qui se passe dans le monde. On le sent, c'est-à-dire qu'il est dit en début de consultation, bah, c'est pas terrible. Voilà. Après, il y a des personnes qui sont dans une telle problématique personnelle que quoi qu'il se passe autour d'eux, ça les fait pas beaucoup réagir. Mais une bonne partie dit ça.
Aurélie Huse, oui. vous êtes d'ailleurs la plus jeune autour de, oui. dans ce studio.
Mon sentiment, ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de saisissement, d'effroi et aussi quelque chose d'ordre du figement. Enfin, chez moi, c'est-à-dire presque une incapacité à croire ce qui se passe et à se sentir pas dans une anxiété qui appellerait à réagir ou à faire quelque chose tout de suite, mais plutôt dans une sorte d'être statufié un petit peu.
Le Parisien titrait cette semaine sur la grande inquiétude des jeunes. Est-ce que chez les jeunes que vous côtoyez, à la fois les amis de votre génération ou chez vos étudiants, est-ce que vous percevez cette angoisse, cette peur qui monte?
Oui, chez mes étudiants notamment, mes étudiantes. Et ça se traduit, puisqu'on va en parler aussi, dans leur lecture et dans leur choix de consommation culturelle, de films, de livres, et leur capacité ou pas à voir des choses qui reflètent, enfin des fictions ou des récits qui reflètent la situation dans laquelle on se trouve.
Et chez vos étudiants, Laurence de Villers ?
Oui, aussi, mais le bénéfice, s'il y en a, le bien qu'on peut tirer de ce mal, de ce mal-être, c'est que le fossé des générations, si tant est qu'il y ait eu un fossé des générations, est moins important. En fait, comme moi, je ressens aussi une peur. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous rapproche. C'est pas la peur qui nous rapproche. Je pense que c'est l'envie de la surmonter ou l'envie d'agir et de comprendre. Enfin, j'ose l'espérer. Donc, de fait, je trouve qu'on n'a jamais été aussi proches les uns des autres, quel que soit l'âge qu'on a.
Guillemette Audicino.
Je vais rebondir sur le terme de dystopie. C'est vrai que le jeune public, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature ou quoi, a toujours lu de la dystopie, a toujours aimé cette forme de science-fiction, etc. Avant, c'était peut-être comme une manière, justement, en fait, de ne pas y croire. Bon, en fait, ils avaient raison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui avaient raison de lire ça, puisqu'on est en pleine, on est en train de plonger dans la dystopie. Je pense que vraiment, oui, c'est angoissant. Puis, vous disiez qu'on n'a rien appris de la période du Covid. On n'a rien appris de plein de périodes, hein, si je peux me permettre. On n'a rien appris des années 30. On n'a rien appris. Enfin, on n'a rien appris. C'est pas possible. Enfin, de pouvoir retomber à ce point. Je pense que c'est ça aussi. Cette sidération, elle vient de là. Elle vient du fait que des choses qu'on estimait absolument impossibles, que nos parents nous ont appris comme le pire du pire, que ça ne reviendrait pas, eh ben, tagada, ça revient. Enfin, je pense que ça, c'est sidérant et effrayant.
Je pense qu'en fait, on a oublié l'histoire. On a cru...
Bah c'est grave, justement.
Bah oui, c'est grave. Et on continue d'oublier l'histoire. C'est-à-dire qu'on la revisite, pour ne pas parler de révisionnisme. On oublie... En fait, on a été un peuple, des peuples, sans histoire. Parce qu'effectivement, on a oublié depuis la chute du mur, en réalité. Mais on a vécu comme si l'histoire s'était paisiblement arrêtée et qu'on allait continuer sans fracas, sans peur, sans guerre et dans une sorte de démocratie généralisée.
C'est la fameuse fin de l'histoire de l'historien Foucault.
Oui, mais je lui donne un sens qu'il ne voulait pas lui donner, ouais. C'est-à-dire que l'histoire ne prend pas fin, l'histoire n'est pas finie et l'histoire continue, et elle continue contre nous et malgré nous, et ma crainte, c'est qu'on ne soit pas armé à penser le passé, donc l'histoire, et à faire de l'histoire, à bâtir l'avenir.
Aurélie Huse.
Oui, pour revenir sur cette question de la dystopie, il y en a eu tellement, on en a été tellement abreuvés depuis longtemps, alors elles ont évolué dans leur forme, qu'au moment où les événements de l'actualité s'en rapprochent, et s'en rapprochent aussi en termes de quantité, en termes de rythme, en termes de systématisation, et je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui, on a une sorte de difficulté à gérer ces deux cadres que sont le rapport à la fiction et le rapport au réel.
Il y a 5 ans, au moment du premier confinement, nous étions nombreux à avoir l'impression de vivre dans une dystopie. 5 ans après, nous sommes nombreux à nouveau à observer l'actualité comme si c'était de nouveau une dystopie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une dystopie ? C'est à la fois une représentation de sociétés autoritaires et totalitaires ordonnées par un système de règles injustes, fondées sur l'oppression de la majorité par une minorité gouvernante. Je reprends votre définition, Aurélie Huse. Et puis c'est aussi la dystopie, une représentation pessimiste du futur. Et deux célèbres exemples de dystopie, c'est bien sûr Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et surtout peut-être 1984 de George Orwell.
Oui, oui. Effectivement, il y a plusieurs contours à la dystopie. Il y a aussi ce qu'on entend communément par ce terme-là et son histoire ou son origine. Originellement, c'est une forme qui est une sorte d'inversion de l'utopie, puisque c'est une utopie qui dont on révèle les fondements fautifs et qui tourne mal. Et donc, il y a une sorte de dialectique entre ces deux formes. Par la suite, progressivement, à mesure que peut-être le cours de l'histoire et le cours des sociétés s'acheminaient vers des problèmes structurels, le terme de dystopie et les titres qu'on a rangés sous ce mot en sont venus à désigner plutôt des anticipations pessimistes, sombres et sans espoir.
Vous développerez tout à l'heure, Aurélie Huse, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on vit en ce moment dans une dystopie ?
J'ai l'impression que on peut lire beaucoup des choses qu'on voit dans l'actualité à travers le rapport à des œuvres dystopiques.
Jean-Laurent Casselli, votre chronique dans une vingtaine de minutes, les Français mode d'emploi, c'est quoi le menu ?
Eh ben, je vais parler de l'armée française avec laquelle j'étais la semaine dernière. Ça tombe très bien. Je suis très content de cette journée spéciale parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur l'armée et le lien entre les armées et la société française.
Vous vouliez dire, Guillemette ?
Non, je voulais dire que c'était étrange d'ailleurs puisqu'on n'a pas encore prononcé le mot de démocratie.
Ah oui, mais on va y revenir.
Dans nos interventions. Et en fait, je pense que c'est le mot qu'il faut placarder partout. Voilà, voilà.
Grand bien vous fasse. Le nouveau désordre mondial. Une journée pour comprendre. Sur France Inter.
Comment surmonter psychologiquement la crise internationale que nous traversons dans le cadre de la journée spéciale sur France Inter, le nouveau désordre mondial, en compagnie de la psychiatre Aurélia Schneider, de la philosophe Laurence de Villers, de l'universitaire spécialiste de science-fiction, notamment Aurélie Huse, et avec la journaliste Guillemette Audissino. Alors, Laurence de Villers, l'une des sources d'angoisse en ce moment, peut-être chez un grand nombre d'auditeurs, c'est la grande confusion dans laquelle nous sommes plongés. La grande confusion notamment entre le bien et le mal. Confusion illustrée par le salut nazi d'Elon Musk, où l'on débat du salut nazi ou pas d'Elon Musk. Votre regard sur ce confusionnisme autour du bien et du mal, avec notamment cette inversion totale des valeurs, quand le vice-président américain Jed Evans reproche à l'Europe de ne plus être un espace de liberté d'expression, alors que leur nouvel allié russe muselle l'opposition, ou que, aux États-Unis, l'accès à la Maison-Blanche est interdit à certaines agences de presse réputées, sérieuses, comme Associated Press. Sur cette confusion, Laurence de Villers, entre le bien et le mal, vous qui avez écrit « Être quelqu'un de bien », philosophie du bien et du mal.
Alors, je pense que c'est le bon terme, confusionnisme, parce qu'on parle de polarisation, enfin, comme si tout ça était pensé. Non, ce qui est au centre, c'est la confusion d'abord du vrai et du faux, et qui a mené à la confusion du bien et du mal. Par exemple, vous le disiez, s'interroger sur le fait de savoir si c'est un salut nazi ou pas, on a perdu du temps. C'est-à-dire qu'il faut plus que jamais être dans la précision et la clarté. Il faut nommer les choses pour les dénoncer et pour agir. Alors ça implique, à mon sens, deux choses de lutter contre ce confusionnisme. Donc d'abord, de nommer très précisément. Et vous me demandiez mon état d'âme en ce moment, il y a la peur, mais il y a aussi un énervement permanent, parce que je crois qu'on est beaucoup trop laxiste avec les mots. Il faut faire attention à ce qu'on dit et il faut le nommer précisément. Et puis, je pense que lutter contre ce confusionnisme, du bien et du mal, et du vrai et du faux, c'est aussi ne pas être dans la réaction permanente. Je m'explique. C'est-à-dire que si on imagine que le camp qu'on décrète comme le camp adverse soutient telle ou telle chose, on va soutenir le contraire. Alors, il y a une journée de la femme, on va défendre les hommes. Il y a la diversité, on va être contre. Mais être contre ou être pour, c'est une façon de ne plus penser de nos jours. Le confusionnisme, il naît dans le fait où on ne pense plus, mais on dresse des barricades. Vous l'avez remarqué, il y a que des partis pris. Il y a que de la croyance, en fait. Il n'y a plus d'intelligence, il y a de la croyance. Il y a ce en quoi on veut croire. Et le confusionnisme commence comme ça. Et puis, peut-être, quelque chose qui, à mon sens, est plus douloureux, enfin, en tout cas, moi, qui me perturbe énormément, c'est que toutes ces dernières années, on a eu un discours sur les valeurs. Et puis, on s'est contenté de dire les valeurs. Et on ne les énonçait plus. Eh bien, on voit le résultat. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas la solution, mais je constate que l'abus du discours de valeur ou du mot valeur sans rien énoncer de concret, de principe d'action, a fait qu'on peut absolument les retourner. C'est ça la fragilité des valeurs.
Laurence de Villers, si vous affirmez que Vladimir Poutine ou le duo Trump-Musk représentent une figure du mal, certains vous rétorqueront un manque de nuance, un manichéisme de mauvais aloi. Comment désigner le mal sans tomber dans la caricature ?
Voilà. L'autre mot, c'est que il y a un processus de confusion et il y a un processus de caricature permanente. Enfin, vous savez que je suis très peu présente sur les réseaux sociaux, mais quand je le suis, je suis très étonnée de voir qu'à la fois on me dit Égérie woke et proche de l'extrême droite. Donc, vous voyez, c'est. Alors, ni l'un ni l'autre, hein, voilà, la réponse est faite. Mais ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que le confusionnisme mène à la caricature. Dès que vous dites quelque chose, il y aura quelqu'un pour vous opposer un parti pris. Donc, il faut éviter cette caricature, donc il faut ce que soutenait Frantz Fanon, hein, les damnés de la Terre, le grand penseur du post-colonialisme. Il faut une pensée neuve. Il faut arrêter d'essayer d'être sous des étiquettes, dans des rails, et dresser des barricades pour dire non, moi je pense pas ça. En même temps, je pense qu'il faut être radical. Il faut nommer le mal. La grande erreur que nous avons eue, faite, nous, Européens, et j'espère que nous la referons pas, c'est de ne pas avoir vu le mal, d'avoir essayé de négocier avec le mal.
Docteur Aurélia Schneider, de quelle façon ce confusionnisme produit de l'anxiété, de l'angoisse ?
L'anxiété et l'angoisse arrivent notablement de l'insécurité. Voilà. Donc on est en pleine insécurité, donc une propension à l'anxiété, c'est évident, sociétal, c'est notre lot au quotidien.
Jean-Laurent Casselli.
Moi, je ne suis pas psychiatre, mais je suis anxieux. Donc, en tant que sujet de la psychiatrie, je peux témoigner. C'est vrai que quand on est anxieux, on s'attend toujours au pire, en fait, en permanence. Et là, moi, je suis plutôt rassuré. Parce que comme le pire est non pas certain, mais fait partie maintenant, c'est rapproché de notre quotidien, ben, je me sens relativement plutôt apaisé.
Guillemette Odissino, journaliste à Télérama.
Ah, je voudrais juste, en fait, le problème, c'est qu'évidemment, le courage de la nuance.
Le beau titre d'un livre de Jean Birenbaum.
Tout à fait. On l'a souhaité, on le voulait, on le réclamait, le courage de la nuance. Le problème, c'est que le courage de la nuance, on aurait dû l'avoir il y a longtemps. Parce qu'aujourd'hui, nos ennemis, pour aller vite, ils ont foulé au pied la nuance. Donc comment on réagit à ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste nuancé face à des gens qui, justement, ont renverser le monde avec des fake news, avec des idées absolument folles que tout le monde se met à accepter. Donc, est-ce que maintenant, la nuance est assez courageuse peut-être, mais pas assez forte pour se battre contre ça ? Comment on fait maintenant pour se battre contre des news qui nous arrivent toutes les deux secondes, qui sont plus folles les unes que les autres, plus absurdes, plus horrifiques les unes que les autres. Est-ce que la nuance, maintenant, ça suffit ?
Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours à la traîne et donc dans l'attente de ce que va dire Trump pour réagir. Et je pense qu'il faut éviter d'avoir uniquement une pensée de réaction. La nuance, c'est la nuance parce qu'elle honore l'intelligence. Et ne pas nuancer, c'est faire une insulte à l'intelligence. Mais j'ai ajouté, Guillemette, il faut avoir le courage de nommer le mal quand on l'a en face de soi, et donc de nommer le bien. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas renoncer, mais maintenant, il faut les nommer. On s'est contenté juste de dire qu'on avait des valeurs. Oui, mais lesquelles? Allons-y.
Aurélie Huss, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'Université Paris-Nanterre. De quelle façon les dystopies, les romans d'anticipation pessimiste posent la question du bien et du mal de façon très générale, hein?
De plusieurs manières. Je pense qu'on peut, on peut voir les dystopies, par exemple, pour les lecteurs et lectrices adolescents, comme des cadres très lisibles, où en fait le mal est désigné très clairement, puisque
comme
ce sont des
Hunger
sociétés
Games.
Comme Hunger Games ou Divergente, par exemple, ou Uglies, récemment, où le mal est désigné clairement, c'est le système, et c'est ce qui permet à une figure adolescente de se rebeller, de gagner son indépendance, et en général de renverser le système aussi. Et dans des dystopies adultes plus traditionnelles, on voit bien que c'est pas l'issue heureuse qu'on nous propose. Et dans ce cas-là, on est sur un modèle assez différent, où la question du bien et du mal se pose parfois de manière plus floue, parce que des personnages contribuent eux-mêmes à leur aliénation en restant dans le système. Et c'est aussi la question beaucoup du vrai et du faux qui s'y pose dans ces dystopies-là.
Laurence Villers, quand je vous ai demandé de sélectionner un philosophe pour affronter le nouveau désordre mondial, vous avez choisi le philosophe et journaliste allemand Günther Anders, qui avait publié « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» un livre disponible en poche chez Alia. Pourquoi vous avez choisi Günther Anders ?
Déjà pour le courage de ce titre, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être désespéré, parce qu'on croit que l'espoir, c'est forcément tout voir en rose ou croire qu'on va vers le meilleur.
Non, et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?
Eh bien justement, parce que la réponse de Günther Anders, c'est le courage d'agir, j'en ai pas besoin pour agir parce que c'est agir qui compte. Le désespoir ou l'espoir, ça m'a jamais consolé. Et la dernière phrase de ce livre de Günther Anders, c'est « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et je crois que c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est comment agir ? On n'a pas besoin de se demander 10 000 fois « Comment je vais faire pour faire ?» Faut agir. Et puis Günther Anders aussi, parce que je crois que c'est le philosophe pour nous aujourd'hui. D'abord, il a dit qu'il fallait exagérer pour faire comprendre. Et effectivement, vous parliez de sidération, on ne sait pas quoi faire, on n'arrive pas à y croire, ça paraît impensable. Et bien lui, il nous dit que pour penser, il faut justement exagérer les choses, parce que sinon, on ne veut pas voir. Et puis en fait, il l'a dit bien avant Jean-Pierre Dupuis, il a dit en fait, le propre de la catastrophe, c'est qu'on ne veut pas y croire, on ne la voit pas. Donc Günther Anders a des mots très forts. D'abord, il a refusé d'être uniquement un universitaire, parce qu'il voulait être là où ça se passait. Donc il a beaucoup écrit, il est beaucoup intervenu dans les médias. Parce qu'il disait, il avait un adage qui était « Inquiète ton prochain comme toi-même ». Il faut pouvoir dire des choses qui semblent exagérées pour pouvoir faire réagir.
Aurélie Huss.
Oui, je réponds à cette idée d'exagération ou d'exacerbation, parce que c'est une des logiques que la dystopie et la science-fiction, et donc les littératures, on va dire, spéculatives, empruntent pour projeter, alors ce qui est moins de l'ordre du futur que du présent exagéré, élucidé, un petit peu mis à nu, à travers un décalage temporel qui est en fait finalement plus ou moins prononcé. Les dystopies comme celle d'Orwell, elles sont projetées dans un ailleurs qui n'est pas vraiment relié au présent, mais qu'on lit comme quelque chose parlant du présent, parce que ça en met à nu certains mécanismes latents.
Et 1984, qui ne cesse d'être lu, en tout cas lors du premier confinement, ça a été un best-seller et qui continue à l'être encore aujourd'hui en 2025. Et nous accueillons Emmanuel. Bonjour Emmanuel, vous appelez du Lot-et-Garonne, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, que vous inspire notre conversation de ce matin ? Comment vous, Emmanuel, vous surmontez psychologiquement cette crise internationale, ce nouveau désordre mondial que nous traversons ? Comment vous abordez ça, Emmanuel ?
Ben, en fait, je mets en place, que je mets en place depuis longtemps, qui est plutôt, avec ces mots galvaudés, de local et de circuit court. C'est-à-dire qu'au niveau du pays, au niveau du monde, enfin, déjà du pays, et je crois effectivement que nous ne sommes plus en démocratie, je n'ai plus mon mot à dire, je n'ai plus ma place. Et alors, je prends une place de solidarité, d'aide, de... des souffles positifs, optimistes, autour de moi. Et je sens que les gens y répondent, que on empêche, qu'on rencontre beaucoup de sourires, on rencontre beaucoup de solidarité, d'aide et des élans qui ne sont pas des élans inondés par l'angoisse et le stress. Et ça existe. Et je crois que, enfin moi en tout cas, qui bien sûr je ne suis pas imperméable à tout ce qui se passe, mais j'ai pas envie de me laisser faire.
Et vous, Emmanuel, qu'est-ce qui vous fait dire, légitimement de votre point de vue, que nous ne sommes pas en démocratie, c'est intéressant ?
Ah ben, je sais pas, moi j'ai pas du tout voté pour ces gens-là. Mmh. Et ils étaient, et en l'occurrence, ne serait-ce que notre...
Ah.
ne nous a pas écoutés, quoi. Enfin, oui. Moi, je me sens pas du tout écoutée. Et il y a eu un vote, quand même, on s'est mobilisés.
Oui, vous parlez des législatives de juin dernier, c'est ça ?
Absolument, voilà, c'est ça. Absolument. Mais tout est à l'avenant. Mmh. Ce n'est qu'une reproduction de ce schéma-là. Donc, nous ne sommes pas écoutés. Oui, pardon.
Et donc, Emmanuel, face à ce désordre mondial, vous préconisez, je ne sais pas s'il faut parler de repli, mais de retour au local pour mieux affronter la situation que nous sommes en train de vivre.
Absolument. Voilà. C'est justement pas un repli. Je ne crois pas. Je crois que ça SM. Je crois qu'au contraire, on est actif et on ne se replie pas dans une morosité et une angoisse terrible. Mais au contraire, on œuvre et c'est pas un repli parce que ça reste ouvert et dynamique.
Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Vous pouvez continuer à le faire et vous pouvez également nous contacter sur l'appli Radio France en nous laissant des messages et des notes vocales. Alors, docteur Aurélie Schneider, que conseillez-vous à toutes celles et tous ceux qui vivent mal cette situation en ce moment, qui sont angoissés, qui dorment mal, qui font des cauchemars, qui s'inquiètent de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ou ceux qui préfèrent le déni voilà, vaste question.
Alors,
pour
vaste
la psychiatre
question,
que vous
merci
êtes.
Ali. Hein. En fait, moi,
j'ai fait appel à vous parce que lors du premier confinement, avec Christophe André, dès les premiers jours du confinement, vous avez eu vous nous avez aidé, vous avez contribué à nous aider dans ce moment qui était assez exceptionnel.
Ouais. Donc, alors, en fait, moi, je donnerais 3 points. J'ai bien réfléchi à votre question. Premier point, l'information, il faut la choisir et choisir le moment où on la reçoit. Parce que c'est infernal, tous ces pop-up qui surviennent.
Ces notifications.
Toutes ces informations de tous les côtés, des potes qui vous disent des trucs, également la télé, également la radio, également. Il faut choisir son canal, il faut être fidèle à son ou ses deux canaux, et le moment auquel on va recueillir cette info. Il y a des moments où il faut, c'est très bête, hein, mais il faut que le portable, les ordinateurs restent dans un bureau et qu'on partage, entre autres, un repas sans aucune intrusion de l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu en relation avec ce que disait Emmanuel à l'instant, c'est qu'il faut continuer d'agir dans son petit quotidien. Je veux dire, il ne faut pas tout arrêter. L'action que chacun peut avoir dans son métier, dans ses relations sociales, elle est fondamentale. On n'arrête pas tout, on ne se met pas dans un lit à attendre que le plafond vous tombe sur la tête. On continue d'avoir ces interactions qui sont fondamentales, essentielles.
C'est vrai que vous avez raison, l'action, et c'est prouvé par la recherche scientifique, a des vertus anxiolytiques.
Absolument. Et en plus, je dirais même, je rajouterais, si vous pouvez, dans cette action, apprendre des choses, apprendre à aller d'un point A à un point B, mais apprendre, je ne sais pas, de la couture, de la pâtisserie, apprendre une nouvelle chose, intéressez-vous à ce que vous pouvez apprendre, ça vous gratifiera terriblement.
L'action, ça peut être aussi l'action associative, l'action politique, le militantisme.
C'est tout ça. Et le dernier point, ça c'est la petite note du thérapeute qui revient. Le soir, demandez-vous ce que vous avez vécu qui vous a fait plaisir 3 fois dans la journée. Il y a plein de choses qui sont non coûteuses, qui éclaire notre journée. Par exemple, ça peut être prendre une douche chaude, parce que quand on a vécu à l'étranger, qu'on a eu que de l'eau froide et qu'on s'est lavé la tête au robinet à genoux, on se dit c'est vachement bien une douche chaude. Un savon qui sent bon, une serviette agréable, le sourire de quelqu'un à qui on tient la porte dans le métro, enfin, un rayon de soleil, une terrasse, n'importe quoi.
L'idée, c'est de se défocaliser de cette actualité anxiogène en se concentrant sur les petites choses, entre guillemets, du quotidien.
Les petites choses qu'on a tous vécues du quotidien.
Tiens, ce mot d'Agathe, qui est assez intéressant, qui nous dit « Moi, je trouve que les périodes où l'histoire se réveille, sont excitantes, motivantes. Elles permettent d'élever le niveau du débat public, de se sentir de nouveau en nation, de faire partie d'un tout. Depuis 30 ans, on s'ennuie chacun dans nos petites vies. Cela ne me déprime pas du tout, mais ça me réveille. » Laurence de Villers.
Ah oui, absolument. Alors, on parlait du bénéfice d'agir. Enfin, c'est ce que souligne déjà Hannah Arendt. Hein. Tout doit commencer avec le fait d'agir. Le reste, d'une certaine façon, n'est qu'angoisse ou littérature. Ça compte pas. Et puis oui, moi je pense, je suis d'accord avec Agathe, votre auditrice, Ali, c'est que il faut qu'on soit à la hauteur de l'histoire. On dit très souvent, on se défausse, on dit l'Europe doit faire ça, le monde, l'entreprise, les médias ne doivent pas faire tout faire. Ben, ça commence par nous. Votre auditrice qui disait on n'est pas en démocratie, ben si, le fait de pouvoir parler sur Inter, c'est un des piliers de la démocratie, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir
s'exprimer. Et de pouvoir le dire, de dire qu'on n'est pas en démocratie.
De pouvoir dire on n'est pas en démocratie. Donc on sait que quand on ne peut plus le dire, c'est qu'on ne l'est pas. Donc la démocratie, elle est ce qu'on en fait aussi. On est tous responsables. On est tous des acteurs de l'histoire.
Guillemette Audicino.
Je suis d'accord. Alors, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus anxiogène pour le coup que les trois belles solutions que vous avez apportées là. Mais c'est vrai aussi de se battre au quotidien pour ce qu'on pense. Enfin, y compris dans une conversation avec un tonton ronchon, avec une copine dont on a l'impression qu'elle
Pourquoi
est en train de...
c'est pour les tontons qui prennent.
Je sais pas, parce que c'est un peu un cliché.
Moi, je suis un super tonton.
Voilà. Dans la série Bref, il y a tout un truc sur la formation des tontons qui est extraordinaire. Mais on sent qu'un ami est en train un peu de riper vers une idéologie qui nous plaît pas, faut se battre. Enfin, faut pas se dire, voilà. C'est-à-dire, allez, hop, pendant une demi-heure, on va le convaincre. En tous les cas, il faut aussi que notre propre cerveau garde l'habitude de défendre ses idées. Hein.
Allez, il est 10h42, l'heure de retrouver les Français mode d'emploi du lieutenant Jean-Laurent Casselli.
Regardez seulement, regardez.
Quand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, Jean-Laurent Casselli, vous nous parlez ce matin du lien entre la société et l'armée.
Oui, général Rebéi. Alors, quand j'ai appris, comme tout le monde dans ce studio, la tenue de la journée spéciale 3e guerre mondiale sur Inter, autant dire que ma petite chronique, hein, petits oignons prévus sur les animaux de compagnie et le salon Zoo Expo de ce week-end, elle a sauté. Merci Donald Trump. Mais comme je suis bon élève, Ali, je me suis adapté. Et en fait, ça tombait plutôt bien. Parce qu'il se trouve que la semaine dernière, figurez-vous que j'étais invité à intervenir aux écoles militaires de Bourges, qui est un vaste campus qui forme les officiers et les sous-officiers, et qui est spécialisé dans la logistique et la maintenance de l'armée de terre. Alors, je vous rassure tout de suite, ainsi que les auditeurs, je n'étais pas là pour donner des cours de tactique militaire, heureusement, pour nous tous, mais pour parler de la société française de manière générale. Et cette expérience m'a beaucoup aidé à mieux comprendre comment le dialogue, comment la société dialogue ou pas d'ailleurs, avec son armée, ou plutôt ses armées. Je dois reconnaître que, comme beaucoup de Français de la génération post-service militaire, en arrivant sur place, j'ai été incapable de distinguer un capitaine d'un colonel. Au bout d'une journée passée au milieu des treillis, j'ai comblé ces lacunes. Alors, je vous explique, le capitaine arbore 3 galons, 3 petites barrettes sur sa poitrine. Le commandant, c'est 4 galons. Le colonel, c'est 5 galons. Et le général, c'est... Et c'était un piège, ce sont des étoiles, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Voilà, on voit celles et ceux qui connaissent ou pas leur armée. Et si on la connaît mal, je pense que c'est au-delà des préjugés tenaces, parce qu'on la voit peu ou pas sur le territoire national. Par ailleurs, on peut avoir l'impression qu'elle ne fait pas vraiment la guerre au quotidien. Et à vrai dire, on y meurt finalement assez peu. Alors certes, l'armée française, elle se déploie beaucoup à l'extérieur. Elle se projette, comme on dit, dans le cadre des opérations extérieures, les OPEX. Et depuis la fin de la guerre d'Algérie, on compte environ 600 soldats morts pour la France en 60 ans. 600, finalement, c'est une centaine par décennie. Donc on est loin en tout cas du conflit de haute intensité. Hein. Une formule qui, dans le jargon inimitable des militaires, signifie une guerre qui fait beaucoup de morts, justement comme celle entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'on m'a expliqué sur place. Hein. Il y a un tel respect de la vie humaine, de toute vie humaine, qu'une perte, y compris militaire, est très difficile à accepter de nos jours dans l'opinion. Qui imagine un instant une société française prête à encaisser des dizaines, peut-être des centaines de morts par jour, comme c'est le cas sur le front ukrainien.
Alors par ailleurs, Jean-Laurent, beaucoup se demandent si la population serait prête à soutenir l'armée en cas de conflit.
Oui, parce que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qu'on a compris, c'est que pour vaincre, il ne suffit pas d'avoir la plus grande armée, les meilleures armes et les meilleurs soldats. Il faut aussi pouvoir compter sur une population qui sera prête à réagir en cas d'attaque, une population capable de surmonter l'adversité, de faire preuve de résilience dans les cercles de la défense. C'est ce qu'on appelle, je vous apprends beaucoup de jargon militaire ce matin, les forces morales de la nation. Les forces morales de la France seraient d'ailleurs plus importantes qu'on ne le croit. Par exemple, dans une étude menée l'année dernière, la chercheuse Anne Muxel, qui est spécialiste de la jeunesse, dresse le constat d'un regain de patriotisme dans les jeunes générations. Il faut dire qu'après une décennie marquée par les attentats sur le sol français et l'invasion de l'Ukraine, la perception des menaces, elle est forte. Et la population en général, et les jeunes en particulier, ont une image plutôt positive de l'armée. Une majorité de jeunes seraient ainsi prêts à faire une carrière militaire, à se battre pour leur pays, et 48% seraient prêts à se sacrifier pour ce pays en cas de danger. Et enfin, sachez que le lien armée-société, ça marche dans les deux sens, puisque si les Français sont sensibles à ce qui concerne leurs armées, eh bien les soldats sont sur certains sujets au diapason de la société française. Anecdote très parlante, au moment de leur intégration, certaines jeunes recrues, une minorité, abandonnent dans les premiers jours. Pas en raison des risques du métier, ni parce qu'ils n'arrivent pas à terminer le parcours du combattant. Non, c'est parce qu'on leur apprend qu'ils ne pourront pas utiliser leur téléphone portable pendant la journée.
Jean-Laurent Casali, sachez que vous vous adressez à un aviateur seconde classe. J'ai fait mon service militaire, vous l'avez fait vous ?
Non, Ali, je vais peut-être devenir réserviste comme vous, de l'armée française.
Ali Rebelli.
J'ai besoin d'une équipe, Arthur, un commando.
Grand bien vous fasse.
Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Rompu ! Broken, roto.
Sur France Inter.
Notre cher Thierry Lhermitte dans le film Quai d'Orsay. Et beaucoup, beaucoup de réactions pour cette émission. Comment surmonter psychologiquement la crise internationale que nous traversons. Philippe qui nous écrit « Je surmonte psychologiquement la crise internationale en écoutant et en regardant le moins possible les médias. Je reste néanmoins informé de ce qui se passe dans le monde, mais à petite dose. » Hélène nous écrit « Les journalistes sont trop pessimistes, les informations sont trop négatives. » À force de répéter que les choses ne vont pas, comment voulez-vous que les gens aient de l'espoir ? Stéphane nous dit « Le meilleur moyen de surmonter psychologiquement la crise internationale, c'est d'être profondément pessimiste. Comme ça, la moindre amélioration devient positive. Un grand pessimiste est finalement un optimiste qui s'ignore. » Et puis Nathalie voulait réagir à l'intervention de notre auditrice Emmanuel. « On ne peut pas laisser dire que nous ne vivons plus en démocratie. En France, les mots ont un sens. Dans notre pays, nous avons le droit de ne pas être d'accord, de manifester, de s'exprimer, de penser, de parler, de se déplacer, de vivre sans être surveillé. » Voilà, c'est dit. Petite réaction à ces messages,
Laurence de Villers. Sur l'espoir, très court, vous me faites signe qu'il faut que je sois brève, je vais être brève. L'espoir, c'est quand on n'a pas de raison d'espérer. Sinon, c'est quoi ? C'est la vie mode d'emploi. Je crois que c'est le titre d'une émission. Mais l'espoir, c'est quand il n'y a plus de raison d'espérer et que quand même on agit, on fait, voire on espère. Ça serait trop facile si l'espoir, c'était juste avoir toutes les raisons d'être heureux ou optimiste, et puis continuer sa marche en avant. Non, l'espoir, c'est une force vive. Il se bâtit, il se construit. C'est quand ça va mal qu'il faut aller chercher l'espoir. C'est pas quand tout va bien et puis qu'on a un itinéraire balisé.
La vie mode d'emploi, c'est surtout un grand roman de Georges Perec que je reprends à mon compte. Que je reprends à mon compte.
C'est ça, j'ai l'impression que vous l'aviez quand même dit plusieurs fois.
Aurélie Use. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en littérature française à l'université Paris-Nanterre. On entend beaucoup dire que la réalité rattrape la fiction, que nous vivons désormais dans une dystopie. En fait, nous reconnaissons dans l'actualité des contenus que nous avons déjà rencontrés dans des romans, des séries ou des films.
Oui, je pense que c'est ça qui donne ce sentiment. Et on reconnaît des contenus et on reconnaît de nombreux contenus différents qui viennent en même temps. En termes de contenu, je parle des atteintes à la démocratie et de le basculement vers des régimes autoritaires, des atteintes contre la vérité, la question des faits, la vérité, les droits des minorités et aussi les dystopies qui s'articulent autour des questions de prise de développement effréné du néolibéralisme et de surveillance via les technologies, le numérique, etc. En fait, on a une sorte de répertoire de motifs dystopiques, et quand ils sont là tous ensemble, ça fait cet effet de masse. Et je pense qu'il y a effectivement cette question d'une sorte de court-circuit entre des expériences fictionnelles et de culturelles qui sont relativement quand même à part. En général, quand on ouvre son livre, on sait qu'on ouvre son livre et on est dans sa lecture, et on fait une distinction avec l'extérieur, avec le réel. Et aujourd'hui, le sentiment qu'il y a cette pénétration de la fiction dans notre monde.
Vous êtes d'accord, Aurélie Huse, avec l'idée que le roman d'anticipation pessimiste, la dystopie, ont pour fonction, bien sûr, de nous alerter, de nous mettre en garde afin d'éviter le pire. Et c'est pour ça que c'est utile d'en lire en ce moment.
Je pense qu'effectivement, c'est là un des gestes de cette anticipation, de ces récits d'extrapolation, en quelque sorte. C'est utile d'en lire, mais ce sont quand même des textes qui sont écrits aussi pour que ce soit plaisant, oui, d'en lire. Et peut-être que ce plaisir-là, il est aussi conjoncturel. Peut-être qu'il n'est pas toujours aussi évident. Peut-être qu'aujourd'hui, il est moins évident.
Alors, Guillemette Sobdessino, journaliste à Télérama, pour affronter ce nouveau désordre mondial, vous nous conseillez de regarder le film d'Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca, sorti en 1998. Andrew Niccol, qui n'avait que 27 ans à l'époque du tournage de ce film. Un film avec Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Parce que d'abord, c'est un très grand film sur le totalitarisme scientifique et technologique. Poum, poum, poum. Alors, en fait, on est dans un monde, effectivement, donc un futur, dont on ne sait évidemment pas s'il est très proche ou pas, mais en tous les cas, qui repose uniquement sur l'ADN. Oh là 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 là, ça commence mal. Et donc, les parents peuvent choisir le génotype de leur enfant, et donc avoir des enfants parfaits pour une société parfaite, où le moindre sourcil, le moindre cil peut en fait vous faire complètement tomber au bas de la société, parce qu'on s'aperçoit que vous êtes un dégénéré. Vous n'avez pas les gènes qu'il faut. Bon, voilà. Et donc, c'est un monde, enfin, vraiment, Andrew Niccol construit un monde fascinant, qui fait très très peur, qui fait très très peur, surtout quand on voit qui est à la droite de Trump, puisqu'on est vraiment là-dedans. On est à un moment, cette notion d'idéalisation, cette notion de perfection technologique, éventuellement évidemment génotypique et tout. Et, je ne vous dis pas pourquoi, mais tout de même, la résistance, et je ne parle pas de la résilience là au contraire, mais la résistance humaine, et même quelqu'un qui peut avoir des défauts, va l'emporter contre un système de perfection totalitaire. Ça fait un bien, je vous dis pas.
Et vous avez choisi également le film Harvey Milk de Gus Van Sant, qui retrace le militantisme politique d'un leader gay à San Francisco. Harvey Milk, interprété par Sean Penn, un film sorti en 2008. Pourquoi ce choix également ?
Ah bah alors là, c'est tout simple. Alors c'est une référence à la chanson de tout à l'heure, Enola Gay. Gay. Alors en fait, vous savez que là, il y a une note qui vient d'être envoyé au ministère de la Défense américaine. Il faudrait enlever toutes les références à l'homosexualité et autres. Ce qu'eux, ils appellent, évidemment, c'est de la chasse à l'inclusivité. Oh. Donc, ils font la chasse à l'inclusivité, donc ils enlèvent les mots gays partout. Eh bien, par exemple, ils voudraient enlever le mot gay de Enola Gay, qui est quand même le bombardier. Non, mais enfin, bon, alors,
et donc
là,
ce choix d'Harvey Milk.
Du coup, gay, donc c'est vraiment le Harvey Milk, c'est un leader qui prouve à quel point le courage, mais le courage individuel, qui devient un courage collectif. C'est-à-dire, au départ, c'est juste un homosexuel qui s'installe à San Francisco, qui a juste envie d'ouvrir une boutique. Évidemment, c'est les voisins, les commerçants autour lui crachent dessus. Donc, petit à petit, il commence en fait à militer. Et puis, les gens viennent à lui. Et il va faire une vraie révolution. Il va être le premier élu ouvertement gay de l'histoire américaine. Il va mal finir, lui, vous le savez, de toute façon. Mais c'est absolument fascinant. Et juste, l'une de ses ennemies au début s'appelle Anita Bryant, qui fait de la croisade anti-gay. C'est une ancienne chanteuse qui vendait du jus d'orange, homophobe comme tout, qui croit en Dieu comme personne. Bah, écoutez le début du film, les discours de la Anita Bryant en question. Franchement, c'est d'actualité, c'est pas possible.
Tiens, pour terminer, j'aimerais qu'on entende la voix de quelqu'un qui, évidemment, a compté dans l'histoire du XXe siècle. Winston Churchill, c'était sur la BBC le 21 octobre 1940 et en français.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France.
En quelques mots, pourquoi cette figure quasiment mythologique de Churchill peut nous donner de la force en ce moment, Laurence de Villers?
Bon, parce que c'est Winston Churchill, donc le type pas parfait du tout, mais qui a été héroïque, donc ça remet bien les choses en place. Et puis parce que Jean-Laurent en parlait, ce qui compte, c'est la force morale. Donc arrêtons de parler de résilience, de mots qui ne conviennent pas. C'est le courage, c'est la force morale dont ont fait preuve les Anglais. Pour une seule chose, c'est parce qu'ils voulaient rester Anglais dans la bataille d'Angleterre. Et puis les Ukrainiens à l'heure actuelle.
Guillaume Todisino.
Ben moi, ça me fait penser. Enfin, bon, de toute façon, Winston Churchill, c'est vrai. En plus, sa voix incarne la résistance d'un peuple entier. Mais moi, ça me fait penser à Claude Malhuret.
Oui.
Voilà, parce
discours.
Que franchement, le discours de Claude Malhuret au Sénat était exceptionnel. Et vous savez qu'il est en train de devenir viral aux États-Unis. Les démocrates se l'envoient les uns aux autres. Et il y a même des démocrates américains qui, grâce à Malhuret, veulent venir habiter en France. Voilà. Bon.
Discours où il compare Trump à Néron et Elon Musk à un bouffon sous kétamine. Merci à toutes d'être venues ce matin. Merci beaucoup, Laurence de Villers. Merci, docteur Aurélia Schneider.
Merci.
Et merci, Guillaume Todisino. On vous retrouve demain dans Grand Bien vous fasse. Et merci, Aurélie Huse, pour cette première radio. C'était très bien.
Grand Bien vous fasse, un podcast France Inter.